Merci Frédéric Barrère. Bonsoir, comment allez-vous? Je me demande qui a dessiné notre visage d'humain. Pourquoi n'avons-nous pas des petites oreilles pointues et poilues sur le haut de la tête comme les écureuils? C'est super mignon et très efficace pour entendre. Moi, un mec qui aurait des petites oreilles rousses toutes dressées sur sa tête avec des poils dessus, je lui repasse ses chemises. Ou alors des oreilles de labrador, sur les côtés, avec un rabat de poils doux. Moi, un mec avec des oreilles de labrador, je veux bien aller passer Noël dans sa famille. Ou encore des oreilles de cochon, toutes craquantes et douces aussi, qui battent quand ils trottent. Moi, un mec avec des oreilles de cochon, je veux bien faire les courses, les repas, la lessive, le ménage. Bon, en même temps, je le fais déjà. Et nous, pourquoi avons-nous ce type d'oreilles? Franchement, vous trouvez ça joli, vous, ce cartilage? Cette forme compliquée? Elles ne sont même pas orientables. Nous sommes obligés de tourner toute la tête pour écouter ce qui vient du côté. Ah, mais j'ai trouvé! Les oreilles des humains ont été dessinées pour supporter les attaches de masques, les branches de lunettes, les fils d'écouteurs et parfois un bonnet. En fait, ils ont dessiné des porte-manteaux.
Bonjour, je m'appelle Tao, j'ai 5 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi on a de la cire dans les oreilles.
Mais c'est pas triste, Tao, bonjour. Quelle jolie petite voix. Docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel, vous êtes ORL. On a de la cire, dit Tao. J'ai l'impression qu'il dit cire comme cire de bougie.
Oui, mais c'est du cérumen, en fait. Hein. Mais ça a effectivement une consistance un peu de cire. Donc, chez l'homme, elle est jaune ou marron. Mais chez les Asiatiques, elles peuvent être plus fines et plus grises. Hein. Ça dépend un petit peu aussi de l'ethnie. La cire dans les oreilles, elle a une fonction. Il ne faut pas aller se récurer les oreilles comme ça.
Ah, j'adore ça, moi.
Elle va permettre... Oui, c'est jubilatoire, je sais. Ça va permettre... Elle va progresser du fond de l'oreille, la fabrication de la cire, jusque à l'orifice, là, on voit dehors. Et ça va permettre d'enrober toutes les poussières, les particules, tout ça, même des fois les petits insectes qui sont là. Ouais. Et de... éliminer et de garder le tympan bien dégagé.
D'accord.
Et il faut savoir que le tympan, qui est au fond du conduit de l'oreille, il se renouvelle tout le temps. Les cellules, elles poussent du centre à la périphérie ou pourtour, et puis ça revient sur les côtés, et on a tout le temps des nouvelles cellules comme ça. Donc le cérumen, il sert aussi à enlever tout ça, à le diriger, le convoyer vers la sortie. Si on se gratouille tout ça, on repousse le cérumen. Et là, on fait des bouchons.
Donc, le cérumen est une espèce d'auto-nettoyage.
Voilà.
Qui enlève les cellules mortes du tympan, qui enlève les choses qui arrivent de l'extérieur. Il faut laisser ce procédé.
Tout à fait. Et on peut se nettoyer l'entrée de l'oreille pour pas avoir des trucs, mais surtout pas les pousser dans le fond. Et les cotons-tiges, d'ORL, comment on reurre des cotons-tiges? Moi, je dis que ça sert à une seule chose, à faire la fortune des marchands de cotons-tiges. Juste l'entrée, ça suffit.
Dites-moi, le tympan, il est grand comme une pièce de 1 centime d'euro?
Oui, à peu près.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est tout petit, mais c'est la membrane la plus sensible du corps humain.
Ça fait mal si on touche?
Eh ben, quand on a une otite, ça fait atrocement mal.
Bon, de toute façon, les cotons-tiges avec leur corps en plastique sont interdits. Le docteur Monfray-Fauvadel a écrit un livre, non pas sur les oreilles, mais sur le bégaiement sous tous ses aspects, physiologiques, psychologiques, sociaux, communicationnels. Dans les petits bateaux, ce soir, vous avez demandé d'où viennent les premiers prénoms et quels étaient-ils? Vous avez également demandé quel était le premier clown, ça fait beaucoup de premiers, et aussi comment se forme la coquille des coquillages. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Hello, bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans, et je voudrais savoir si quelquefois le musée du Louvre met en vente un tableau. Merci.
Pascal Torres a écrit Arthur, Les secrets du Louvre, édité à la librairie Vuber. Pascal Torres, vous êtes écrivain, vous êtes romancier également et aussi conservateur en chef au musée du Louvre. Alors j'imagine que vous pouvez bien répondre à Arthur.
Oui Arthur, ta question est très intéressante parce qu'elle met en relation deux choses, c'est-à-dire l'œuvre d'art qui est une œuvre patrimoniale, on va dire qu'elle appartient à tous les citoyens français si elle est au Louvre. On le suppose, et puis par-delà les Français aux citoyens du monde. Et puis également le commerce de l'art, c'est-à-dire que si le Louvre peut acheter des œuvres, eh bien pourquoi ne pourrait-il pas en vendre? C'est tout à fait normal et logique. Or, il ne peut pas.
Ah bon?
Il ne peut pas parce que les œuvres sont classées. La Révolution a décidé que ce serait ainsi et pas autrement. Tout ce qui est patrimoine de la nation est dit inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre. Alors évidemment, il y a toujours des politiques pour faire le contraire de ce que la Révolution a décidé en se proclamant plus démocrate que les premiers démocrates. Et ce fut le cas, par exemple, terriblement, non pas pour des tableaux, mais en 1887, la Troisième République, qui était tellement remontée contre la monarchie et contre surtout les Bonaparte, hein, après Napoléon III, qu'elle a décidé de vendre tous les diamants de la couronne. C'est monstrueux. Parce que ces diamants de la couronne, c'était près de 70 000 pièces de pierreries absolument exceptionnelles. Ces diamants de la couronne, eh bien, avaient été rendus inaliénables par François Ier en 1530. C'est lui qui crée les diamants de la couronne en disant, voilà, le royaume de France va inscrire sur un inventaire tel et tel diamant de la couronne, dont la côte de Bretagne, le plus beau rubis au monde, hein, qui est toujours là, heureusement. Et il faudra les transmettre de roi en roi. Et on ne pourra jamais les vendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à plus de 70 000 pierres précieuses, qui était une des plus belles collections. Et tout a été vendu et fondu. Et en fait, l'État...
Et fondu, donc détruit.
Voilà, parce que les bijoux qui portaient ces pierres, eh bien, n'intéressaient plus personne. Donc on a détruit les plus grands chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie et de la joaillerie française depuis la Renaissance. Voilà déjà une première chose. Perdu à tout jamais. Les pierres ont été achetées à des prix dérisoires, parce que mettre tant de diamants et de pierres exceptionnelles sur le marché ont fait que les cours ont chuté, et ce sont les plus grands joailliers mondiaux qui les ont achetés. Et depuis cette date fatidique de 1887, on s'est rendu compte que vraiment vendre, ça ne valait pas la peine, c'était perdre et véritablement irrémédiablement les œuvres d'art les plus belles que le musée du Louvre pouvait garder.
Alors Pascal Torres, là j'entends bien que c'était une énorme bêtise que de vendre ces diamants, mais... En même temps, le Louvre n'est pas élastique. Si vous rentrez des œuvres, il faut bien qu'il y en ait qui sortent.
Alors voilà. Mais il y a une idée qui fait son chemin. On pourrait peut-être vendre les doublons. Alors ça se fait. Pas au Louvre, forcément, mais par exemple à la Bibliothèque Nationale, dans les départements patrimoniaux comme ceux des estampes.
L'estampe est un art
multiple, vous voyez. Donc on peut vendre des multiples pour les échanger. Mais... Au Louvre, quand il y a eu des échanges, par exemple, je vais parler d'un échange qui est le pire échange qu'il y ait eu pour le musée du Louvre, qui évidemment est l'œuvre des collaborateurs de Pétain, hein, en 1941. Vous savez que Pétain avait été ambassadeur auprès de Franco en Espagne, hein, entre gens sympathiques, il pouvait sympathiser. Eh bien, ce monsieur décide, donc le chef de l'État français, que l'on peut faire un superbe échange avec le musée du Prado, parce que le Louvre n'a pas de Velázquez. Donc le Louvre a cédé son plus grand chef-d'œuvre de la peinture espagnole, qui est l'Immaculée de Soult, un chef-d'œuvre de Murillo qui était au Louvre et qui faisait l'admiration du monde entier, contre également la Dame d'Elche, qui était la plus grande sculpture, qui est aujourd'hui la fierté, et c'est très bien, du musée archéologique de Madrid. Contre quoi ? Contre un Velázquez d'atelier, donc pas Velázquez.
C'était pas un bon deal pour le Louvre.
C'était pas du tout un bon deal pour le Louvre, mais quand on pense à la France occupée et collaborationniste et à la puissance des alliés d'Hitler, on comprend bien ce qui s'est passé. Voilà. Voilà pourquoi on ne peut pas vendre, parce que les œuvres appartiennent à la nation, et la nation demeure propriétaire de sa mémoire. Personne n'est apte à juger de ce qui est important pour la mémoire de la nation, sinon les générations à venir qui le diront.
Pascal Torres donc a écrit entre autres Les secrets du Louvre, qui sont maintenant à 10 euros chez Talendier, c'est vraiment intéressant. J'étais en train de réaliser que moi des Velázquez en vrai, j'en avais jamais vu.
Étranger. pieds noix que dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette, les oubliettes au fond de la cour.
Comme un vol d'hirondelles échappées de la poubelle des cieux.
Des pianos à queue dans la boîte aux lettres. J'ai pas encore trouvé de piano à queue dans ma boîte aux lettres, quoique j'ai pas regardé. Peut-être ce soir il y en aurait un, réduit par Mary Poppins ou Merlin l'Enchanteur. Mais j'ai un charmant facteur. C'est quand même déjà ça. Hein. C'était donc Jacques Higelin, tête en l'air.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Foulk et je voudrais savoir comment se forment les coquilles des coquillages. Merci.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 6 ans, bientôt 7 ans. Je voudrais savoir comment se fabriquent les coquillages. Merci.
Bonsoir Emma et Foulk. Les coquillages, c'est votre spécialité, Jean Prou. Vous êtes directeur du centre de recherche de la Tremblade. Vous êtes donc chercheur à l'IFREMER. C'est votre truc, les coquillages. Comment se forment les coquilles, demande-t-il.
Alors Foulk et Emma, les coquillages, effectivement, ont une particularité. C'est qu'elles ont des coquilles. On peut se demander, avant de répondre à la question comment elles se forment et pourquoi les coquillages ont des coquilles. Alors ce sont des animaux, en fin de compte, de la même famille que, par exemple, les bigorneaux, mais qu'on signe une coquille, mais aussi de la même famille que les poulpes, les seiches.
Qui n'ont pas de coquilles.
Qui n'ont pas de coquilles, les encornés. C'est à peu près la même famille, ce qu'on appelait les céphalopodes. Puis il y a les gastéropodes et puis il y a les huîtres qu'on appelle des bivalves, hein, parce qu'ils ont deux coquilles. Alors ce sont des animaux qui, dans l'histoire de l'évolution, ont pris l'habitude de vivre près des côtes, sur des zones qui se découvrent à chaque marée. Ce sont des zones où il y a énormément de vie. Et donc, si vous décidez d'habiter là, il faut vous protéger, et que vous avez décidé aussi, quoi. Vous avez décidé, l'évolution a décidé.
J'entends.
L'évolution a décidé que vous serez attaché quelque part et que vous ne pourrez pas bouger. Alors, il faut vous protéger. Autrement, si vous ne pouvez pas bouger, il y a deux périls. Un, vous ne pouvez pas aller chercher à manger. Et puis deux, vous allez être attaqué par un nombre de prédateurs conséquents. Voilà.
Le coquillage ne peut pas fuir.
Donc deux conséquences, vous vous entourez d'une coquille. Vous fabriquez une coquille autour de vous, puis vous ouvrez les deux valves de la coquille pour respirer, pour manger, et dans des zones où il y a beaucoup à manger. Et voilà. Et donc là, maintenant, on va passer à la deuxième partie de la question, c'est comment se forment les coquilles. Alors, ce petit animal, il a, en fin de compte, il a ce qu'on appelle un manteau. C'est un peu comme nous avec notre peau. Et autour de notre peau, si on n'avait pas les manteaux que l'on met l'hiver pour se protéger du froid, eh bien, on serait obligé de les inventer. Et le manteau de l'huître, en fin de compte, c'est lui qui va sécréter de la coquille. Alors, il la sécrète plutôt sur le bord, mais après, il la sécrète aussi à l'intérieur, tout autour de son corps. Et donc, ce manteau-là est accroché aux deux valves, de telle manière que quand l'huître s'ouvre, eh bien, les deux manteaux vont s'écarter aussi, et l'eau de mer va pouvoir rentrer, et l'huître va pouvoir, ou la moule aussi, vont pouvoir manger la nourriture qui vient à elle. Donc c'est comme ça que forment les coquilles. Alors après, pourquoi c'est le carbonate de calcium, on appelle ça la coquille? Alors c'est du calcaire, on pourrait l'appeler le calcaire aussi. Et Foulk et Emma, vous voyez, vous avez certainement été au bord de la mer, ou même en plein milieu dans le bassin parisien, il y a des falaises de calcaire. Le calcaire, c'est en général des restes d'animaux marins qui sont tombés au fond de la mer, qui ont sédimenté pendant des millions d'années. Et quand, après des millions d'années, ces couches sont tassées dans le fond de la mer, l'eau s'en va. C'est un peu chauffé et ça donne de la roche calcaire. Et des fois, après, avec les mouvements tectoniques de la planète, c'est-à-dire quand il y a des grands mouvements, par exemple la formation des Pyrénées ou la formation des Alpes, ben, dans les Préalpes, vous avez des roches, ce sont des roches calcaires. Donc ça veut dire qu'avant, elles étaient dans le fond de la mer et c'était des restes de coquillages qui, il y a très longtemps, sont morts, sont tombés au fond de la mer et puis ont fait des rochers qui s'appellent de calcaire. Les pyramides d'Égypte, par exemple, sont faites entièrement de coquillages. C'est d'un petit coquillage qui s'appelle l'énumulite. Et donc, toutes les falaises que l'on voit de temps en temps en calcaire, vous regarderez bien à l'intérieur, dans certaines, on voit encore les huîtres d'il y a 50 millions d'années ou 70 millions d'années.
Voilà, vous pouvez lire les livres de Jean Prou. Il adore les huîtres, Jean Prou, il en parle bien. Vous pouvez lire chez Sud-Ouest des huîtres et des hommes. Quand on ouvre des huîtres, on comprend quand même que le coquillage est une excellente défense.
Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 7 ans. Je suis brésilien et je voudrais savoir quel était le premier clown. Merci.
Bonjour Tom, bom dia pourrais-je te dire. Alors Tom demande Pascal Jacob, qui était le premier clown? Vous êtes spécialiste des arts du cirque et votre livre, Pascal Jacob, édité au Seuil, s'appelle justement Clown.
Alors, bonjour Tom. C'est une sacrée question. Et c'est pas évident d'y répondre.
Bah,
on a quand même une petite idée, mais pour moi, le premier clown, c'est le premier homme des cavernes qui a glissé, qui a trébuché, qui a fait rire les autres et qui a recommencé le lendemain. Voilà. Ça pourrait être le premier clown. Alors, plus sérieusement, le clown, en fait, est un personnage de théâtre, donc qui vient de la scène élisabéthaine, donc au XVIe siècle, et donc c'est un personnage théâtral. C'est le clown, hein, comme on pourrait dire la soubrette ou l'élégant.
Ah, c'est un mot anglais, clown.
Oui, clown.
Clown, oui, vous dites scène élisabéthaine, tout d'un coup je viens de réaliser.
Oui, absolument, c'est un personnage qui est un peu grotesque, avec des sabots, qui parle, on comprend pas très bien ce qu'il dit. Enfin, c'est vraiment un personnage à vocation, à caractère comique, et donc il y en a eu quelques-uns très célèbres, mais ce ne sont pas des clowns de cirque. Pour le coup, ce sont vraiment des clowns de théâtre, des clowns de scène, ce sont les grands ancêtres. Mais si on parle vraiment du premier clown de cirque, moi j'aurais tendance à dire que c'est un Français, Jean-Baptiste Dubois. Alors, son très 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 peu connu, puisque nos amis anglo-saxons préfèrent toujours dire Grimaldi, qui était d'origine italienne mais qui a fait toute sa carrière en Angleterre, qui a été un héros. Ses souvenirs ont été écrits par Charles Dickens, donc c'est un grand personnage de la première moitié du 19e siècle. Mais Grimaldi était l'élève de Jean-Baptiste Dubois, donc et il semblerait que Jean-Baptiste Dubois est le premier à avoir été annoncé en tant que clown ou clown sur une affiche en Angleterre. C'est la première fois que l'on utilisait ce terme pour identifier un personnage, un homme en l'occurrence, sur une piste, là pour le coup, alors que Grimaldi n'a jamais vraiment fait de cirque, il a toujours été un clown de scène, un clown de pantomime, dans les théâtres Drury Lane ou Sadler Wells, qui étaient les scènes les plus populaires à l'époque. Et donc, voilà, moi je propose Jean-Baptiste Dubois comme le premier clown de l'histoire du cirque.
Alors, pour répondre à Tom, précisément, la réponse est Jean-Baptiste Dubois.
Voilà, absolument.
Si vous vous intéressez au clown, Pascal Jacob vient d'écrire un livre édité au Seuil qui s'appelle tout simplement Clowns, puisque le mot est au pluriel. C'est un beau livre jaune, rouge et orange, comme les clowns, on le voit. Et puis, si vous avez la chance ou la malchance d'être parisien, eh bien, Pascal Jacob s'occupe du cirque Phénix, qui est sur la pelouse de Reuilly, à Paris, jusqu'au 16 janvier, avec un spectacle, Gaïa, exclusivement composé de femmes du monde entier, des acrobates, des trapézistes, des musiciennes, des clowns venus d'Éthiopie, d'Ukraine, d'Argentine, du Japon, du Portugal, de Hongrie et de France. Baby, let me in. Go easy, hug me, baby.
do. So go easy on me.
Événement musical de cette fin d'année 2021, le retour d'Adèle, et c'est vrai que c'est un bonheur, sur France Inter, dans Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Foucault, j'ai 9 ans, je me demande à quelle époque sont apparus les premiers prénoms et d'où ils venaient. Merci, au revoir.
Bonsoir Foucault, tu as une jolie voix et justement ton prénom, c'est un petit peu comme un nom de famille, Marie-Odile Merniac, Foucault.
Oui, mais c'est aussi au départ un ancien prénom. D'ailleurs, le nom de famille est un prénom. Il rappelle le prénom porté par l'ancêtre initial. Foucault, c'est un très beau prénom qui veut dire peuple. Enfin, les racines veulent dire peuple et gouverner. Donc, ah oui. Un prénom d'origine germanique. Dans en gros la moitié des cas, les noms de famille ont été faits à partir du prénom du chef de famille.
Et puis après, il y a des prénoms qui ont été faits avec des noms de famille. Vianney, par exemple.
Oui, 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 Vianney, c'est le cas. Xavier aussi. Saint-François-Xavier. Xavier était son nom de famille, comme Jean-Marie Vianney. À chaque fois, ce sont des saints qui ont été particulièrement honorés, vénérés, et on a pris leur nom de famille pour en faire un prénom.
Si je suis canonisée, par exemple, Bréham peut devenir un prénom.
Voilà. Mais maintenant, depuis 93, on peut même choisir votre nom de famille comme prénom pour ses enfants.
Donc, à quelle époque sont apparus les premiers prénoms et d'où venaient-ils? Je vous ai un peu perdu en vous posant des questions.
Depuis bien longtemps, puisqu'en fait, les prénoms existent depuis aussi longtemps que les êtres humains, nécessairement, il fallait pouvoir se nommer. Et ils avaient au départ toujours un sens. On vient d'évoquer ton prénom, Foucault, mais dans certaines civilisations, ils étaient comme le tien, valorisants. Notamment les noms germaniques. Bernard signifie ours fort. Mathilde, c'est force et puissance. Donc, des prénoms glorieux. Dans d'autres cas, ils étaient dévalorisants, notamment en Asie. Des prénoms un peu injurieux, parce qu'on croyait qu'à ce moment-là, le mauvais sort ne s'intéresserait pas aux enfants qui portaient des prénoms comme ça. Dans d'autres cas encore, on se contentait de numéroter les enfants. En Afrique, Mamadou, c'était le premier. Samba, le deuxième. On le faisait aussi à l'époque romaine. Il reste encore les prénoms latins Quentin, Sixte et Octave. C'est le cinquième, le sixième, le huitième.
Belle famille.
Par exemple, oui. On avait en Afrique, d'ailleurs, on numérotait jusqu'au douzième. Le treizième enfant, ça n'était pas un numéro. C'était un mot de la maman qui disait « je suis satisfaite ». Le treizième s'appelait « je suis satisfaite ».
C'est voilà. Extraordinaire.
Et le plus souvent quand même, les prénoms sont... Théophore, alors c'est un mot bien compliqué, mais qui signifie qu'en fait, les prénoms évoquaient Dieu et que c'était une façon pour les parents de placer l'enfant sous sa protection. Ainsi, Jessica veut dire « Dieu existe », donc c'est dans toutes les civilisations. Ahmed, Dieu est le plus honoré. Emmanuel, Dieu est avec nous. Nathan, Dieu a donné. Joseph ou Youssef, Dieu fera croître sa descendance. Tiphaine, apparition de Dieu. Noël, par exemple, votre prénom évoque aussi la nativité, etc., etc.
Donc en fait, ça a toujours un rapport avec Dieu, même chez les Asiatiques qui donnent des prénoms dévalorisants. C'était finalement pour que les mauvais esprits ne s'en occupent pas.
Voilà, exactement.
Et ça a toujours un rapport avec le ciel, on va dire.
Pas nécessairement. Dans les civilisations germaniques ou celtiques, c'était plutôt des prénoms uniquement valorisants ou très guerriers.
Marie-Odile Merniac a écrit 365 prénoms expliqués. C'est en format poche aux éditions du Chêne et ça coûte 5 euros. Et puis cet été, elle a écrit un beau livre sur la généalogie chez Archives et Culture. Si vous avez aimé les choses de Georges Perec, vous aimerez ce petit livre jaune de deux historiens cette fois, Gilles Bartholins et Manuel Charpie. L'étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s'en servent, édité chez Carnet Parallèle. À votre avis, combien avez-vous d'appareils domestiques chez vous? Comme ça, à la louche. Eh bien, vous êtes loin du compte. Je vous lis les premières lignes du grille-pain. Si vous vivez en appartement, vous devriez en posséder près de 70, plus de 120 si vous habitez une maison avec jardin. En moyenne, 450 kilos, nous apprend une enquête menée en 2016. Du lave-linge à la machine à coudre, de la tondeuse à la perceuse, de la hotte aux jouets motorisés, des téléphones aux ordinateurs, de l'appareil photo aux montres, du lave-vaisselle à l'imprimante, du chauffe-biberon à l'appareil à raclette, de l'aspi au mixeur, du ventilateur au four à micro-ondes. Je m'arrête. Pour le philosophe Gilbert Simondon, ce n'est pas la technique en soi, mais la méconnaissance de la machine qui est la plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain. Écoutez, c'est tellement vrai, nous sommes en grand désarroi quand notre ordi ou notre lave-linge nous lâche. Ce petit livre nous raconte comment les arts ménagers sont devenus l'art d'aménager la double journée de la femme, comme l'écrivait la revue Les Pétroleuses en 1975, et aussi comment les cuisines ouvertes actuelles font que les appareils deviennent des éléments de décoration. L'étrange et folle aventure du grille-pain chez Carnet Parallèle. Podcaster ou réécouter simplement ces petits bateaux, mes amis, par franceinter.fr. Marjorie de Voucou et Marie-Claire Matoute, Stéphane Combe et Jean-Baptiste Audibert, Antoine Teboul et Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.